Radio Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima Aouta.
La 9e conférence des gouverneurs s'ouvre ce jeudi 22 décembre à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Une conférence qui s'articulera autour du programme de développement des 145 territoires. Au dire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ce programme est initié pour élever le pays. Et puis plus de 40 familles vivent à la belle étoile dans la cité riveraine de Benadibélé, dans le territoire de Kolé, province du Sankourou, après l'inondation du week-end dernier. Dans ce journal, vous suivrez un père de famille de 5 enfants qui lance un SOS. Enfin, avec ses 2 millions d'habitants et ses potentialités, la province de l'Équateur a besoin d'un leadership transformationnel en vue de sortir de sa léthargie de sous-développement. C'est Barnabé Bongabo Mwakatita, président du cadre de concertation de la société civile de la province de l'Équateur, qui l'a dit. Il est notre invité dans cette édition du journal. Voilà tout pour les sommaires. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. La 9e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo s'ouvre ce jeudi à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Le thème de cette session est le programme de développement local des 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Présidée par le chef de l'État, cette réunion est une occasion pour chaque gouverneur de province de présenter l'état des lieux de son entité administrative et surtout les perspectives pour l'année 2023. Par ailleurs, dans un meeting à l'esplanade de la maison communale de Wangata au centre-ville de Mbandaka, Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur l'agression de la RDC par le Rwanda à travers le M23 dans l'est du pays. Il a expliqué à la population qu'il a mis en place le programme de 145 territoires pour élever le pays. C'est ainsi qu'il a promis de résoudre les problèmes d'eau et d'électricité dans la ville de Mbandaka. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi.
Mosala gouvernement ezali ko sala ko ete tokokisa makambo mansoyo.
Le gouvernement travaille pour que nous puissions réaliser tout ce que vous demandez. Je veux d'abord savoir pourquoi il y a le problème de l'électricité ici. Ce jeudi, nous commençons la conférence des gouverneurs ici à Mbandaka. Et si nous avons décidé de venir faire ça ici, c'est pour que nous puissions nous enquérir de tous vos problèmes et y trouver des solutions. S'il faut même convoquer les DG de la SNEL, nous le ferons pour que nous puissions voir avec lui ce que nous pouvons faire pour trouver une solution durable à ces problèmes. Je reviendrai encore ici à Mbandaka et je continuerai mon voyage dans d'autres provinces du Grand Équateur pour vérifier si tout ce que j'ai promis a été réellement exécuté. Pour que les entreprises viennent ici, il faut qu'il y ait l'eau et l'électricité. Donc, en priorité, nous devons résoudre ces problèmes-là de l'électricité et de l'eau.
Donc, Esengeli, en priorité, tolonga nano likambo ya pasioyo ya courant namai.
Le président de la République a appelé la population à aller se faire enrôler massivement le samedi 24 décembre lors du lancement de l'opération d'enrôlement par la CENI. Lui-même, a-t-il dit, il se fera enrôler à Mbandaka le même samedi. Et puis, dans la province de la Tshopo, c'est confirmé, le grand forum sur l'unité, la paix, la cohésion et le développement de l'espace Grand Oriental se tiendra du 27 au 30 décembre courant à Kisangani. C'est le vice-président de la cellule de communication et presse de cette grand-messe, des fils et filles de cet espace géographique, qu'il a annoncé mardi au cours d'un point de presse organisé à l'hôtel Rwenzori. Jean-Stanis Bilanga précise que ce forum, dont le facilitateur et l'archevêque de Kisangani, Mgr Marcel Outembi Tapa, n'a rien de politique ni de régionaliste ou de tribaliste. Il explique la motivation ainsi que la thématique qui sera abordée au cours de ces assises. Ces propos ont été recueillis par Jacques Moukonkole.
Devant tout ce que cet espace a connu, depuis le Congo belge, puisque à la première république, avec Mobutu, et jusqu'aujourd'hui, les fils et filles de cet espace ont trouvé qu'il faut s'arrêter pour réfléchir profondément sur l'avenir et sur le devenir de cet espace géographique de la RDC. On va réfléchir sur comment promouvoir et construire l'unité, la cohésion, la paix, le leadership collectif, la solidarité et le développement de l'espace Grand Oriental. C'est donc ça l'objectif général de ce forum. Donc, vous savez, la Grande Orientale, orientale ou l'ex-province orientale, c'est le berceau de l'hospitalité légendaire. C'est le berceau du nationalisme. C'est l'espace patriotique qui n'a pas d'égal en RDC. Donc, aucune idée tribaliste, aucune idée régionaliste et rien que développement. Nous n'avons pas la prétention ici que nous venons pas choisir les candidats à tel ou tel autre poste. Nous venons réfléchir sur la paix, la sécurité, le développement et la coopération internationale, la gouvernance et la participation et leadership politique.
La secrétaire d'État française auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, en séjour à Kinshasa, se félicite du rôle joué par la France qui a initié la rédaction de deux résolutions votées mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est notamment celle qui lève l'obligation des notifications pour la livraison d'armement à la République démocratique du Congo. Madame Christoula Zakharopoulou l'a dit ce mercredi à Radio Okapi. Elle a été jointe par Grace Hamzati.
La France a pris l'initiative aux Nations Unies de faire voter la levée de l'obligation des notifications pour la livraison d'armement et d'assistance militaire à la RDC. Cette résolution, et je me félicite, a été votée à l'unanimité et nous sommes vraiment contents. Et je tiens aussi à dire qu'aujourd'hui, j'ai rencontré le président Tshisekedi qui, lui, d'ailleurs, remerciait la France pour cela.
Et puis, au Nord Kivu, un acteur de la société civile pense que la population n'est pas satisfaite des mesures prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies mardi dernier sur la question de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'après Étienne Kambalé, membre de la thématique bonne gouvernance de cette structure, en dépit des efforts dans la dynamique régionale de Nairobi et de Luanda qui ont demandé au M23 de se retirer de ses positions initiales, aucune avancée n'est observée jusque-là. Selon cet acteur, la population du Nord Kivu attend plus du Conseil de sécurité, une condamnation du Rwanda, mais aussi plus de pression sur le M23 afin que les populations déplacées puissent regagner rapidement leur milieu d'origine. On écoute Étienne Kambalé.
Nous attendons plus du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si leurs membres de famille étaient ici dans les camps de déplacés de Kanyaruchinya, on dirait que c'est un camp de concentration pour exterminer les membres de nos familles. Comme si cela ne suffisait pas, nos frères qui sont dans les territoires de Rutshuru sont bastonnés tous les jours par les hommes du M23 et son partenaire le Rwanda. Nous pensons que le Rwanda devait subir des sanctions des Nations Unies et des pays amis pour faire à ce que nos frères puissent rentrer dans leur village au niveau de Nyiragongo, mais aussi dans les territoires de Rutshuru. Nous pensons que c'est que les tueries que nous avons connues à Kinshasa, c'est inacceptable. On dirait qu'il y a deux poids, deux mesures. Nous ne voyons pas que le travail est en train d'être fait comme nous l'attendons. Du fait que c'est notre droit, ce n'est pas une faveur et ils ont l'obligation de travailler d'arrache-pied. C'est une plaisanterie et nous pensons qu'ils doivent changer cette façon de faire et de nous rassurer que nos frères et sœurs ont le droit de rentrer dans leurs entités.
Par ailleurs, Étienne Kambalé déclare saluer la levée par le Conseil de sécurité de l'ONU de la mesure d'exigence des notifications d'achat d'armes et autres matériels militaires à travers sa résolution 2667. Autre nouvelle, dans la province du Kwango, 6 assaillants armés ont été capturés lundi 19 décembre dernier par les forces de sécurité au village Bitari-Loassa, situé dans le secteur de Bukangalonzo, territoire de Kenge. C'est là après des opérations militaires conduites par le commandant 11e région militaire adjoint chargé des opérations, renseignements et coordination des opérations à Kwamout, le général-major Bruno Mandevu. Pour le moment, les sources militaires sur place renseignent que ce village qui a été pris en otage par des assaillants est sous contrôle de l'armée. Irène Bouma nous en dit plus.
Selon les porte-parole de la 11e région militaire, le lieutenant Jacques Kenge, le village Bitari-Loassa a été infiltré et occupé pendant plus d'une semaine par des assaillants armés qui étaient dissimulés dans la population. Ces assaillants, toujours selon la même source, étaient sous le leadership d'un certain individu surnommé Roi, qui a pris fuite avant l'arrivée de FRDC. Parmi ses coéquipiers, au moins 6 ont été arrêtés par l'armée, a indiqué le lieutenant Kenge, avant d'ajouter que quelques armes de ces assaillants assaillants ont également été récupérés, dont 6 fusils type calibre 12, 15 balles de calibre 12 et 15 machettes. Il y a aussi une quantité importante de chanvre qui a été saisie et incinérée sur ordre du commandant des opérations, le général-major Bruno Mandev. Pour l'instant, le village bitarillois s'est libéré et est sous contrôle de l'armée régulière. Rappelons que ces assaillants avaient bloqué toutes les entrées et sorties de bitarillois selon le président de la société civile du Congo, Lucien Lufutu, qui avait dénoncé la semaine dernière leur présence dans cette localité. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans la province de Sankourou, plus de 40 familles vivent à la Belle Étoile après l'inondation qui s'est produite le week-end dernier dans la cité riveraine de Benadibélé, dans le territoire de Kolé. Plusieurs maisons des quartiers Bak et Bakouba se sont écroulées à cause des eaux de la rivière Sankourou, affirment les sources sur place. Un des sinistrés, Korando Tumba Wantumba, père d'une famille de 5 enfants, dit vivre difficilement sans aucune assistance après cette catastrophe naturelle. Il a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Je suis marié et père de 5 enfants. Nous avons été surpris par les inondations au quartier Bakoupa à Benadibélé. J'ai tout perdu, les ustensiles de cuisine, les casseroles, ma radio, tout est parti dans l'eau. Je suis dépourvu de tout. Ma maison s'est écroulée à cause des eaux de la rivière. Que le gouvernement ait pitié de moi suite à cette perte. Je suis cultivateur. Je produis le maïs, l'arachide, le grain de courge et le riz. Comment puis-je vivre? Nous sommes pendant la saison de pluie, nous souffrons. Il n'y a pas moyen d'envoyer les enfants à l'école, pourtant nous avions déjà acheté quelques uniformes. Mon diplôme s'est complètement mouillé dans la maison. Nous n'avons pas d'habits, pas de nourriture, pas de houe. Ma pirogue qui était à l'autre rive a été emportée. Je ne sais quoi faire.
Et puis dans un autre chapitre, pour n'avoir pas été notifié par la ministre du Travail et Prévoyance Sociale après sa nomination par le président de la République comme président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, Matenda Kielou Athanase saisit la justice pour qu'il soit remis dans ses droits. L'information est livrée à Radio Capi ce mercredi par Maître Venant Atibou Ali Massi, secrétaire adjoint et porte-parole de la Nouvelle Alliance des démocrates NAD, après la première audience au Conseil d'État. Maître Venant Atibou Ali Massi explique au micro de Florence Kizalunga.
Il a plu au président de la République, chef de l'État, de nommer parmi les mandataires de la CNSS, c'est Matenda Kielou Athanase. Alors, l'article 3 de cette ordonnance demande à ce que la ministre du Travail et Prévoyance Sociale puisse exécuter l'ordonnance. Malheureusement, les intéressés seront surpris désagréablement, particulièrement M. Matenda Kielou Athanase et M. Kongolo Lomba Sébastien, de constater que dans sa notification, la même ordonnance qui a été lue à la télévision nationale par Mme Tina Salama, cette même ordonnance a été reprise dans sa notification, mais malheureusement après avoir changé les noms qui ont été repris sur l'ordonnance originelle du président de la République. Alors, ça a surpris toutes les consciences de constater que comment un ministre peut se donner le loisir de changer l'ordonnance du président de la République. C'est là le nœud du problème. Monsieur Matenda et Monsieur Kongolo ont saisi le Conseil d'État pour solliciter à ce qu'il soit rétabli dans leurs droits.
Entre-temps, au Sud Kivu, le programme national de lutte contre la tuberculose plaide pour une prise en charge nutritionnelle des malades tuberculés. Cette maladie mortelle qui prend de l'ampleur, surtout dans sa forme multirésistante, le PNLT Sud Kivu a fait un plaidoyer mardi à Bukavu, à la Fédération des entreprises du Congo Sud Kivu, pour des kits nutritionnels en faveur des tuberculés. Docteur Freddy Birembano, médecin coordonnateur de ce programme de lutte contre la tuberculose, parle de cette maladie au micro de Emmanuel et la Mejiwa Kabedi.
La tuberculose, c'est une réalité dans la province. Les données que nous disposons à mi-parcours nous renseignent qu'on est à près de 8000 cas de tuberculose non compliquée, près de 60 cas de tuberculose multirésistant. Et parmi ce nombre, il y a 13% d'enfants de moins de 5 ans et nous avons 9% des co-infectés VIH. Les cas multirésistants, c'est tous ces malades qui ont commencé le traitement. Pour une raison ou une autre, ils l'ont interrompu en arrêtant Il développe maintenant une forme compliquée, une forme qui nous contraint, nous, à les mettre en quarantaine, parce que c'est une forme qui est grave. Vous devez savoir que le Fonds mondial, qui est le principal bailleur de 25 dernières années, a souhaité que nos populations puissent s'approprier. Parce qu'il faut le dire que la province du Sud Kivu, le pays, la RDC, nous sommes parmi les trois premiers pays avec une forte prévalence de la tuberculose dans le monde.
Actualité internationale.
En Guinée, le dialogue inclusif interguinéen entamé le 25 novembre dernier à l'initiative du chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, et boycotté par les principaux partis politiques du pays, a pris fin mardi 20 décembre et les conclusions ont été rendues publiques mercredi 21 au cours d'une cérémonie solennelle au palais présidentiel. C'est un document contenant 35 résolutions qui a été remis au colonel Mamadi Doumbouya par les facilitatrices qui ont animé pendant un peu plus de 2 mois ce cadre de dialogue interguinéen.
L'invité.
Dans la suite de la série des reportages que Radio Kapi a amorcé sur la région de l'Équateur, notre invité dans cette édition du journal est Barnabé Bongabo Mwakatita, président du cadre de concertation de la société civile de la province de l'Équateur, BIS. Il estime qu'avec ses 2 millions d'habitants et ses énormes potentialités, la province de l'Équateur a besoin d'un leadership transformationnel en vue de sortir de sa léthargie de sous-développement. Dans cet entretien, il évoque d'abord la responsabilité de l'État, premier moteur du développement. Barnabé Bongabo Mwakatita est interrogé ici par Paul-Richard Malengela. Suivez.
Monsieur Barnabé Bongabo, bonjour.
Bonjour.
L'Équateur reste ou semble se maintenir à la traîne des provinces de la RDC sur le plan du développement. Quelles en sont vraiment les raisons principales?
Oui, merci de la question. C'est vrai que la province de l'Équateur est potentiellement riche, tant au plan de la forêt, tant au plan des ressources halieutiques, tant au plan de potentiel agricole. Donc il y a tous les atouts qui puissent permettre à la province de l'Équateur de décoller. Par exemple, au niveau des ressources halieutiques, on vous dira que la province de l'Équateur n'a pas moins de 800 espèces de poissons qui sont ici. Au niveau des potentiels agricoles, d'ailleurs, la province de l'Équateur, c'est une province à vocation agricole. Mais il s'est fait malheureusement que jusqu'au jour d'aujourd'hui, et comme ce que vous venez de dire, la province de l'Équateur est à la traîne. Pourquoi? Eh bien, vous savez que le premier moteur du développement, c'est l'État. Partout au monde, c'est ça. C'est l'État qui doit propulser le développement au niveau d'une nation, au niveau d'une province. En termes, lorsqu'on fait la lecture des paradigmes du développement, le premier vecteur du développement, c'est l'État. Alors, il s'est fait malheureusement qu'au niveau de la province de l'Équateur, la volonté politique fait défaut pour pouvoir accompagner le processus du développement au niveau de la province de l'Équateur.
Pour l'émergence de l'Équateur, quelle doit être la part des acteurs étatiques, d'abord locaux et puis nationaux?
Et d'abord, il faut qu'on ait des acteurs. Le problème aujourd'hui de l'Équateur, il y a un problème de leadership et transformationnel. Il faudrait qu'on puisse avoir des acteurs étatiques qui ont une vision clairement définie pour le développement de la province de l'Équateur. Nous voyons autant le gouvernement provincial que l'Assemblée provinciale. Mais nous avons la nette impression que ceux qui ont la chance de pouvoir entretenir les reins de commande du pouvoir au niveau de la province de l'Équateur, donc les différents acteurs étatiques, ne sont pas au service du développement de la province, mais ils sont à leur propre service.
Alors au niveau national?
Au niveau national, c'est encore un goulot d'étranglement là. Vous savez que nous sommes dans le contexte de la décentralisation, nous sommes même dans le contexte de la régionalisation, avec les différentes réformes que le pays a connues. Le niveau national ne rend pas aussi la tâche facile au niveau de la province de l'Équateur.
Notamment le problème de rétrocession qui n'arrive pas régulièrement. Est-ce que c'est le seul moyen qui peut booster le développement de la province?
Non, il y a aussi des moyens locaux. Nous avons au niveau de la province de l'Équateur la DGRP qu'on appelle aujourd'hui DGRE. D'après les informations sur notre possession autrefois, en 2020, il était déclaré par un haut responsable que les recettes moyennes mensuelles de la DGRE s'élevaient à 300 millions de francs congolais. Et prenez 300 millions de francs congolais fois 12 mois de l'année, ça fait quand même de l'argent. Donc il y a aussi des ressources locales qui puissent tant soit peu appuyer ou bien soutenir l'effort local du développement.
À vous entendre parler, donc il y a un manque de bonne volonté politique tant sur le plan provincial que national.
Exactement. À tous les niveaux.
Alors, ne penserez-vous pas que l'initiative privée des opérateurs économiques et acteurs sociaux que vous êtes, vous, de la société civile, est également utile à l'émergence de l'Équateur?
Et vous savez que la société civile, au niveau de l'Équateur, d'une manière générale, fait son travail. Et la société civile constitue un contrepoids. C'est juste aussi pour inciter les uns et les autres à être utiles au niveau de la province. Mais il se fait malheureusement que dans bien des cas, la société civile n'est pas bien comprise. Elle a toujours été considérée comme étant l'ennemi beaucoup plus de ceux qui dirigent, ceux qui commandent la province. En même temps aussi que la même société civile est inféodée, elle tombe aussi sous les coups de la corruption. C'est un danger, vraiment un malheur, nous pouvons même dire ça, pour la province de l'Équateur.
Barnabé Bongambo, merci.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Alain Goy. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination de Richard Junior Kamunga et la supervision d'Alain Irung Mushinge. Merci également à vous pour votre particulière attention.